tous. Alors, moi, je viens de l'Université de Tours. Je suis ingénieur de recherche en aménagement et urbanisme contractuel. Donc, pas au CNRS, pas encore. Et donc, je vais vous présenter une contribution sur la question de l'adaptation, alors, qui s'appuie sur plusieurs travaux de recherche qui ont été réalisés et qui sont en cours. Donc, la présentation d'aujourd'hui, je l'ai organisée en trois temps. Je vais un peu expliquer l'approche qu'on développe sur la question du changement climatique comme objet de politique publique locale. Après, je présenterai d'une manière synthétique, ramasser les résultats d'un projet de recherche qu'on avait fait en 2007-2008 sur qui s'appelait le changement climatique révélateur des vulnérabilités territoriales. Et après, étant donné le nom dans lequel j'intervenais, concept, essayer de stabiliser des concepts complexes, donc je ne sais pas si je vais participer à les stabiliser, mais au moins je vais les questionner, et donc des questions plus générales, moi, que je suis en train de me poser sur le concept d'adaptation dans son application territoriale. Donc les positionnements des recherches qu'on fait, moi j'ai pris l'objet changement climatique suite à un travail sur la mise en espace, la mise en politique territoriale du développement durable. Et donc le changement climatique m'est apparu comme un objet particulièrement pertinent pour regarder finalement là où ça coinçait, là où ça coince toujours, dans la mise en œuvre des politiques locales de développement durable, c'est-à-dire comment intégrer le temps long dans la planification, dans l'aménagement du territoire, et comment les territoires peuvent s'interconnecter, intégrer leurs externalités, donc des questions récurrentes, des enjeux récurrents, et l'objet climat au début des années 2000 est apparu comme celui qui pouvait symboliser tout ça, vu que c'est un problème global. Donc je ne vais pas refaire qu'est-ce qu'on appelle l'objet climat, enfin pour moi ça permettait de venir questionner plus précisément tout ça, et donc les effets spatialisés du changement climatique. Suivant les échelles de temps, les échelles spatiales retenues, ils peuvent être positifs ou négatifs. Donc ça, c'est très intéressant. Par exemple, le littoral en Nord-Pas-de-Calais, à moyen ou court terme, il peut y avoir un afflux de touristes. Et puis à plus long terme, il peut y avoir plus de plages du tout. Donc ça dépend vraiment du pas de temps qu'on prend pour appréhender les effets. Il y a des possibilités d'impact positif. La question de la répartition dans l'espace de ces impacts et de la déconnexion entre les causes et les conséquences. Donc ce n'est pas ceux qui auront le plus émis qui seront forcément le plus impactés. Donc il y a quelque chose aussi en termes d'inégalité qui est très intéressant et qui vient re-questionner l'aménagement et l'action face aux déséquilibres spatiaux. Donc bon, je passe. Alors nous, on prend le changement climatique comme un objet de politique publique locale et on regarde comment il s'institutionnalise, comment il rentre en politique. Donc avec à partir de quel événement déclencheur, si événement déclencheur il y a, quels acteurs le portent, quels acteurs l'introduisent sur la scène publique locale. Comment il est retraduit, réapproprié, s'il est retraduit, réapproprié, quel type d'instruments sont mobilisés pour agir. Voilà. Aussi, on regarde les articulations entre les politiques de développement durable et là, ce qui arrive, les plans climat, etc. Et bien sûr, les interactions entre atténuation et adaptation, je vais y revenir. Et est-ce que ça donne lieu à une remise en débat des perspectives de développement ? Donc, les projets sur lesquels, les activités de recherche sur lesquelles je vais parler. En 2005, on a commencé un projet pour le GICC qui était un aperçu des politiques régionales émergentes sur la question climat. Donc, on avait regardé Nord-Pas-de-Calais, La Réunion et Poitou-Charentes, donc des régions très contrastées. Et on a pu un peu regarder comment ça commençait à devenir un objet de politique publique au niveau régional. Alors après, le second projet, c'est celui que je vais présenter les résultats aujourd'hui. On n'est pas parti là du climat comme objet de politique publique locale, on est plutôt parti de ce que dans la littérature était mentionné comme les espaces les plus vulnérables aux effets du changement climatique. on s'est dit, on va aller voir des espaces de ce type et voir comment eux, ils appréhendent ou qu'est-ce que vient changer le changement climatique dans leur gestion des vulnérabilités. Donc ça a été un projet très intéressant qui prenait la question, donc qui partait de la question des impacts, mais c'était quelque chose, je le précise, qui a été très exploratoire. On a pris trois terrains qui ne sont pas comparables en termes de taille, d'organisation, etc. Donc c'était vraiment une exploration. Et puis le projet qui est en cours actuellement, c'est l'adaptation au changement climatique, les défis d'une approche intégrée. Donc là, ça a commencé en début d'année, et c'est à partir plutôt de ce projet que je présenterai les interrogations sur l'idée d'adaptation, etc. Où là, l'idée, c'est de regarder, de questionner dans les politiques territoriales, qu'est-ce qu'on met derrière l'adaptation, comment les acteurs locaux comprennent cette idée d'adaptation, s'ils la comprennent. La question des interactions adaptation-atténuation, comment est-ce qu'on construit, des politiques, climatiques intégrées, et comment on prend ces interactions. Et la question de l'interterritorialité, c'est-à-dire l'articulation d'échelle, est-ce que la politique d'une région vient alimenter les territoires, inversement les territoires d'une région, les régions entre elles. Donc on pense qu'il y a quelque chose de très intéressant sur l'emboîtement et l'articulation des échelles autour de cette question-là. Et puis je mentionne un projet auquel je participe mais que je ne coordonne pas, qui est quelque chose plus sur la vulnérabilité en milieu urbain et qui réunit pas mal d'économistes, qui est réalisé dans le cadre du PIRV, et là qui cherche vraiment à questionner d'un point de vue théorique les idées de vulnérabilité et résilience, et donc qui a débuté en début d'année, donc on est au début de ce projet. Ça, je vais passer parce que je vous l'ai dit. Donc là, le projet sur lequel je suis, il y a la volonté de regarder l'adaptation, la volonté de regarder la dimension intégrative, adaptation-atténuation, et cette question d'interterritorialité, d'articulation des échelles. Je passe vite. Et les terrains retenus pour ce projet à venir, donc c'est deux régions, Rhône-Alpes et la région Bourgogne, grandes villes, Grand Lyon et Montréal. Et puis après, il y a quelques travaux exploratoires. Ça nous intéressait si on peut faire regarder sur des PNR, des pays, au niveau de l'intercommunalité, comment y compris la question climatique. Et puis il y aura aussi un travail, c'est la thèse dans le cadre de la thèse de Luc Semal, un travail sur les villes en transition et finalement les mouvements citoyens ascendants. Comment cette question climatique, elle peut remonter par des mouvements par le bas, mais pas par les institutions. Donc voilà, c'est un projet sur deux ans. Donc on a commencé les terrains en Bourgogne et au Grand Lyon, et donc il y a déjà beaucoup de choses intéressantes, mais je suis vraiment au début. Donc par rapport à la thématique de ce séminaire, j'ai choisi de vous présenter très brièvement le projet de recherche le changement climatique révélateur des vulnérabilités territoriales. Donc la problématique, c'est est-ce que les territoires les plus menacés sont ceux qui sont les plus à même d'intégrer la question, le risque climatique dans leur politique. Et cette intégration du changement climatique contribue-t-elle à renouveler la perception des vulnérabilités des territoires? Donc on avait choisi trois types, c'est des terrains types en fait, qui représentent des milieux vulnérables, définis comme vulnérables dans la littérature. Donc les milieux urbains qui sont... donc dans la littérature, on retrouve la question des pics de chaleur, des îlots de chaleur urbaine. La question des inondations, les zones de moyenne montagne par rapport à la variabilité de la ressource en neige, et donc le risque économique par rapport à des territoires qui sont souvent construits autour d'une monoactivité, et puis également un renforcement des risques naturels, avalanches, glissements de terrain, crues. Et puis un troisième type de territoire littoral, donc là en l'occurrence un territoire insulaire, c'était l'île de Ré, donc les territoires insulaires qui sont pareils, les risques qu'on associe liés au changement climatique, c'est les risques, enfin une aggravation des risques d'érosion, de submersion, et avec une incertitude un peu plus grande, une augmentation de l'intensité et de la fréquence des tempêtes. Donc à partir de là, on avait notre échantillon. Donc on a fait des enquêtes. Alors c'est pas des enquêtes auprès de la population comme évoqué précédemment. Là c'est plus des enquêtes comme j'ai montré un peu l'approche retenue. Donc auprès des décideurs, auprès des institutions, auprès d'éventuellement des représentants de mouvements citoyens, mais des entretiens plus un corpus d'entretiens beaucoup plus réduit. Donc le Grand Lyon, je vais d'abord décrire un petit peu ce qu'on a vu. Alors c'est très très réducteur, hein, très rapide. Donc le Grand Lyon, ils étaient dans une dynamique de réalisation d'un plan climat territorial avec une inscription de la dimension adaptation. Alors la dimension adaptation au Grand Lyon, elle a d'abord été intégrée par la participation à un projet de recherche européen, c'était le projet AMICA. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le rattachement du Grand Lyon à ce projet, c'est essentiellement fait par des techniciens au sein de l'Agence locale de l'énergie et aussi au sein de la direction d'écologie urbaine, qui ont postulé, qui ont répondu aux appels d'offres. Donc, c'est pas une saisie politique de cette question, c'est bien une saisie par le niveau des techniciens. Donc cette participation au projet AMICA, elle a permis de réaliser un diagnostic de vulnérabilité. Et parmi ces vulnérabilités, donc, ils en ont pointé trois, la ressource en eau, les inondations, les pics de chaleur, avec un focus sur la question des îlots de chaleur urbains qui apparaissait comme la plus importante, la plus urgente à traiter. Donc, dans les démarches entreprises en termes d'adaptation, on a quelque chose qui est assez novateur parce qu'ils ont commencé au début des années 2000 à rédiger une charte de l'arbre. Donc là, la charte de l'arbre, c'était pas dans une optique d'adaptation, mais rapidement, ils se sont rendus compte que les questions que posait la gestion de la végétation en milieu urbain, et notamment le choix des espèces, etc., devaient intégrer les questions de variabilité du climat. Donc cette charte de l'arbre, le chargé de mission qui portait cette charte de l'arbre a rapidement intégré les problématiques liées à l'adaptation. Donc ils ont fait, plus classiquement, un dispositif canicule. Et puis après, ils ont entrepris pas mal d'actions autour de la réduction de la vulnérabilité aux îlots de chaleur. Donc avec, il y a eu une thèse de réaliser, il y a eu une cartographie assez fine, ils ont commencé à mettre en œuvre des réponses en termes de végétalisation. Donc une politique assez importante autour de cette question des îlots de chaleur. Donc l'intégration d'adaptation dans cette politique urbaine, elle est liée avant tout à des enjeux de santé publique et de confort urbain. Alors là, ce qui me paraît intéressant, c'est de par rapport à l'interaction entre atténuation et adaptation, de montrer que la végétalisation du milieu urbain, elle est vue comme une condition pour permettre viable, pour que la ville dense reste viable. Donc la ville dense, c'est la solution qui est pointée en termes d'atténuation, la ville plus sobre, plus économe, mais on se rend compte qu'elle est plus vulnérable aux îlots de chaleur, et donc la réponse, en termes d'adaptation, c'est la végétalisation de la ville. Mais ça ne remet pas en cause le modèle de la ville dense. Donc ça me paraît assez important. Sur l'île de Ré, on avait une question climatique qui n'était pas saisie en tant que telle, donc qu'on nommait pas avec une donc on n'est pas du tout non plus aux mêmes échelles, hein, avec une malgré tout une prise en compte de la variabilité climatique qui remontait quand même au début des années 2000 dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels. Où quand on décortiquait, on s'apercevait qu'on avait quelque chose d'assez intéressant dans le relèvement du niveau des digues qui était prescrit, Il y avait eu une élaboration entre les dires experts, donc la modélisation, les savoirs un petit peu anciens, et puis quelque chose d'un peu pifométrique sur et cette variable climat, sur ce relèvement des niveaux de la mer. Et donc cet ensemble de variables avait conduit à un relèvement de la hauteur du niveau des digues. Donc ça me paraît aussi assez intéressant de voir que là, ça passait par ce dispositif-là. Et donc la question climatique n'était pas mise en avant en tant que telle. Et par contre, elle avait été mobilisée comme argument secondaire pour renforcer la politique de défense des côtes. Et ce qui est aussi important à souligner, c'est que c'est une action qui est à l'échelle d'une communauté de communes, mais c'est porté quand même par le maire de la commune la plus exposée. Enfin, à l'époque où j'ai fait le terrain, c'était porté par le maire de la commune la plus exposée. Donc voilà pour l'île de Ré. Oui, si, et puis le truc fondamental aussi, c'est que on est sur des territoires qui historiquement ont déjà gagné des terres à la mer et qui ont une culture de l'île de Ré. C'était des petites îles, ça a repris cette configuration quand il y a eu le grand épisode de submersion. Et donc il y a d'une part une culture des épisodes de submersion, parce qu'ils savent que c'est déjà arrivé, etc. Et il y a aussi une culture de conquête de terres sur la mer. Donc on est dans ce contexte-là. Alors, je vais accélérer. Donc, et Villard-de-Lans, une station de moyenne montagne. Donc, pareil, il n'y avait pas un affichage, une action climatique en tant que telle. Donc, par exemple, ce qui était très intéressant, c'est que là, la question climatique était mobilisée et mise en débat avec des acceptions différentes du devenir du territoire. C'est-à-dire que la réponse à apporter est divergée. Donc là, bon, c'est un peu schématique, on a ce qui est commun, ce qui est opposé. Mais donc, on était le constat de la perte de la ressource en neige était partagé. Le tournant vers une vision plus développement durable, valorisation du patrimoine. Par contre, entre il y avait un projet d'extension du domaine skiable avec une unité touristique nouvelle. Donc, entre ce projet et il y avait une opposition, il y avait une interprétation de l'enjeu climatique et de ce qu'il impliquait pour le devenir du territoire qui était tout à fait divergente. Donc, entre une réponse assez classique d'intensification de la neige artificielle et une réponse plus de diversification des activités touristiques. Et donc, on peut constater que c'est pas les mêmes... pas les mêmes rationalités qui sont en jeu pour se représenter l'avenir. Donc entre l'inertie du passé, on a toujours fait comme ça, et au contraire, c'est le moment ou jamais de changer. Ça me paraît assez intéressant parce que ça vient en écho à des travaux de Lucien Sfès qui a fait une étude comparée sur deux stations de moyenne montagne, où il montrait également que suivant les contextes culturels, à aléas identiques, on avait des réponses qui étaient tout à fait différentes. Entre y avait une commune qui envisageait la diversification et une autre qui restait dans, qui se recréait un passé comme activité, organisée autour de l'activité ski, et donc qui ne pouvait se projeter que dans l'activité autour du ski. Donc on a quand même osé mettre les terrains côte à côte, alors qu'effectivement on compare des choses qui sont pas comparables. Mais c'est pour montrer qu'il y avait des impacts différents, ça se focalisait autour d'impacts différents, que la vulnérabilité elle n'était pas associée aux mêmes enjeux, aux mêmes temporalités, que les événements déclencheurs n'étaient pas les mêmes. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que alors là, ça se voit pas très très bien, mais que les cercles de diffusion du problème adaptation, du problème impact, n'étaient pas les mêmes. Mais ils étaient quand même très souvent d'abord techniques et dans des sphères techniciennes, avant d'être politiques. Et le seul endroit où ils devenaient politiques c'est-à-dire qu'il y avait quand même une saisie, une reprise du problème par le politique, c'était au Grand Lyon, qui affiche une action adaptation dans son bilan et dans son programme politique. Donc des réponses qui varient, pareil, qui ne sont pas du tout les mêmes, avec des temporalités qui varient. Et puis donc des politiques locales d'adaptation, donc au Grand Lyon c'est explicite, c'est anticipé, on communique dessus, ça fait partie de l'image de métropole européenne, performante, compétitive. À l'inverse, à Villard-de-Lans et à l'île de Ré, il n'y a pas d'affichage d'une action face au changement climatique en tant que tel. Et à Villard-de-Lans, il y a en plus une appropriation controversée de la question climatique. Et donc la mobilisation des impacts territoriaux du changement climatique comme ressource argumentative dans les débats locaux, donc elle varie, elle peut être forte à Villard-de-Lans, elle était très peu visible à l'île de Ré et on avait mis moyenne pour le Grand Lyon. Donc je vais finir là-dessus. Ça peut, donc c'est ce qui a déjà été dit, hein, c'est perçu comme un facteur d'accentuation des vulnérabilités existantes, c'était le cas de Villard-de-Lans et de Duré. Et au Grand Lyon, ça a donné lieu à une évaluation de la vulnérabilité. Donc on a des contextes différents, notamment en termes de capacité de saisie et de traitement. En termes de mécanisme de solidarité, là ça me paraît aussi essentiel, comment on partage le risque, le coût du risque, le coût de la réparation. Et en termes d'enjeux considérés, là j'ai mis ça parce que pour le ski, ça interroge le modèle de développement. Pour l'île de Ré, ça interroge carrément le support du développement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renoncer aux ouvrages de défense côtiers, ou alors on a l'espace qui disparaît. Donc ce n'est pas du tout les mêmes choses qui sont mises en jeu. Donc voilà, il me reste 5 minutes pour parler du concept d'adaptation. Alors d'abord, s'adapter à quoi ? S'adapter, c'était un peu là le cas en Afrique, déjà s'adapter aux conditions actuelles vu que c'est déjà des systèmes en crise. S'adapter à un climat futur, oui, mais lequel ? Et s'adapter à un climat en transition, un climat qui change. Est-ce qu'on s'adapte aux seuls effets du changement climatique ? Donc là, on a vu que les présentations de ce matin, par le haut, on peut isoler les impacts du changement climatique. Par le bas, c'est pas possible d'isoler les impacts du changement climatique. Et l'appréciation de la part du climat, de la part des pressions anthropiques directes, est tout à fait variable suivant le propriétaire côtier, le maire, si vous allez au conseil régional, si vous allez à l'ONERC, et j'imagine après à l'Europe, il y a un gradient entre on va maximiser la part du climat par rapport à maximiser la surfréquentation touristique, etc. etc. Donc on a une réelle difficulté à isoler les effets du changement climatique, et c'est peut-être illusoire localement. Et comment on considère un impact négatif ou positif, à savoir que suivant le contexte culturel, le même aléa pourra être perçu comme quelque chose à accompagner et qui va très bien aller, ou comme quelque chose sur lequel il faut lutter contre, parce que ça déséquilibre tout le système local. Donc s'adapter à quoi ? On s'adapte aux évolutions des conditions climatiques moyennes, on s'adapte aux répercussions sur les extrêmes. Donc là, sur la variation des valeurs extrêmes, la variation sur les probabilités par rapport au risque naturel, sur les grandes ruptures à venir qu'on suppose, qu'on ne sait pas, qu'on présuppose. Ou alors, on peut encore, d'une manière plus large, s'adapter à la généralisation des politiques climat et donc s'adapter à une hausse du prix du carbone, à une raréfaction des énergies fossiles, à des changements de pratiques et de comportements qui sont a priori inéluctables par rapport à un ensemble de facteurs. Donc s'adapter pour quoi faire ? Précédemment, il y a eu une présentation, bon, l'adaptation, la définition du GIEC, l'adaptation c'est un ajustement. Quand on va localement, les gens sont pas du tout ceux qui sont en charge de construire une politique d'adaptation n'ont pas du tout ces certitudes. On s'adapte pour quoi faire. Donc moi j'ai repris ça parce que c'était dans la lettre de commande de l'ONERC par rapport à la stratégie nationale d'adaptation. Est-ce que c'est une stratégie de parade ? est-ce qu'il va falloir faire avec le changement climatique? C'est ça, ça veut dire ça, s'adapter? Ou est-ce qu'il faut lutter contre les impacts? On sait que pour l'atténuation, c'est lutter contre le changement climatique. Les politiques, quand elles ont construit les premières politiques climat dans les années 2000, c'était la lutte contre l'effet de serre. Donc ça, on le retrouve par rapport à l'aménagement du littoral. Lutter contre ou faire avec, c'est quelque chose entre endiguer ou se reculer, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Donc la question, est-ce que c'est finalement pas l'acclimatation comme le processus biologique qu'on a toujours connu, on s'est toujours adapté aux conditions climatiques. Le processus de réajustement continu, ça serait plus finalement la définition du GIEC. Et puis après, il y a la question éthique. Est-ce que l'adaptation, c'est tout un tas une structuration de systèmes socio-techniques, on met tout sous monitoring, on regarde comment ça bouge, et puis on réajuste, et puis... Ou est-ce que finalement, il faut carrément changer de posture et par rapport à la domination de la nature, la maîtrise de la nature, et pourquoi, c'est quoi le changement climatique? Ça nous renvoie à quoi? À nos effets, c'est bien l'effet de l'action humaine sur notre quotidien qui devient perturbé, donc un changement plus profond de référentiel. Donc là, j'ai cité un philosophe qui parlait de ça dans un numéro de Responsabilité environnement. Donc, je vais aller vite. Donc, les types de réponses ne seront pas les mêmes suivant si on est face aux événements extrêmes, si on est face à l'évolution des conditions climatiques moyennes. Face aux grandes ruptures, je ne vois pas trop pour l'instant. Donc, face à l'évolution des conditions climatiques moyennes, on a une adaptation qui peut se faire par filière, on a une adaptation qui peut se faire par territoire, mais à mon avis, ça doit être dans le cadre de reposer plus largement la question du devenir du territoire, du modèle de développement du territoire et de la durabilité de ce territoire. Pour les événements extrêmes, on voit quand même qu'il y a une grosse communauté qui travaille autour du risque et qui est en train de se réapproprier la question climatique. Après, il y a différentes écoles sur le traitement du risque. En France, on a eu des approches qui étaient très aléacentrées, très techniques. On peut aussi considérer le risque comme résultant d'une production entre l'interaction entre un territoire, une époque et une société, et donc creuser ces compréhensions du risque. Et puis face à un climat en évolution et une société en transition, donc là une conception très extensive de l'adaptation, il y a la solution de mener des exercices de prospective territoriale relativement ouverts. Et donc là je citais le travail que j'ai trouvé très intéressant qu'a fait le Conseil économique et social en Bretagne, qui s'est posé la question de la gouvernance de la Bretagne en 2030-2050 d'une façon très ouverte et qui du coup se pose la question de l'adaptation aux effets du changement climatique avec le reste du devenir du territoire. Et donc là, il y a peut-être aussi des pistes d'acculturation. Alors, donc les freins, je vais aller rapidement parce que ça, c'est pas forcément très territorialisé. Ça a longtemps été perçu comme quelque chose de politiquement incorrect, défaitiste, de renoncement. Comme ça a été souligné, ça modifie largement le contexte de légitimation de l'aide au développement, et il y a un renouvellement des arguments pour demander de l'aide au développement. Et politiquement, c'est une question qui est aussi délicate. Après, mettre en œuvre une politique d'adaptation, on a beaucoup de mal à évaluer les coûts, on n'a pas de politique toute faite, on n'a pas d'objectif clairement défini. Pour l'atténuation, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour stabiliser le climat. Pour l'adaptation, on n'a pas cet outillage en termes de politique publique, donc sans objectif, outil, sans résultat, construire la politique d'adaptation, c'est très délicat. On a eu une incertitude durable, on en aura une qui demeurera. Et donc construire sur des connaissances qui certes éclairent sur les tendances mais qui restent incertaines, c'est aussi la gestion d'incertitude. Et puis on a eu des politiques climatiques qui ont quand même focalisé sur l'indicateur CO2, sur des approches très quantitatives et qui sont en train de devenir des grandes politiques énergétiques et qui occultent de ce fait tout un... tout un pan d'enjeux liés au changement climatique. Et ce chemin qui a été pris par rapport à la structuration des politiques climatiques, par rapport aux quotas, etc., ce design a empêché beaucoup d'évolutions. Donc c'est pour ça aussi qu'on en est là aujourd'hui. Alors le dernier point, moi il me semble très très important, c'est la matérialité. Si vous avez une politique d'adaptation qui est très efficace, vous n'aurez aucun résultat sur le territoire. Le territoire parfaitement adapté, donc tout va bien. Si vous avez une politique d'atténuation qui est efficace, vous allez avoir des grandes éoliennes, de la végétalisation, des bâtiments à énergie positive, tout un tas de choses qui donnent lieu à plein d'inaugurations, plein de bilans, on peut faire des photos sur les plaquettes. L'atténuation, il y a du palpable. L'adaptation, il n'y a pas de... Alors, ça ne s'inaugure pas, ça ne se voit pas, ça ne se valorise pas. Ça pose des problèmes politiques très très concrets, ça, pour la saisie de cette question. Et puis la reproductibilité des réponses. Bon, l'atténuation, je ne vais pas dire on met les mêmes réponses partout, mais la sobriété, les comportements, les économies d'énergie, quand il y a une technologie qui est en place, on peut la diffuser, on peut la généraliser. L'adaptation, a priori, ça ne prendra pas le même chemin. Ce qui a été une réponse sur une commune, la réponse d'à côté, ça ne sera peut-être pas la même réponse. Donc on a une reproductibilité très ferme, très, très faible, pardon. Et là, en termes d'apprentissage, d'essaimage, de généralisation, et donc pour l'aménagement, c'est quand même fondamental, c'est très problématique. Donc localement, ça c'est ce qu'on a pu voir, il n'y a pas de culture de l'adaptation, il y a une difficulté à penser localement l'adaptation. Contrairement à l'atténuation, parce qu'on a quand même eu des politiques énergétiques en France après le second choc pétrolier, elles ont été abandonnées, mais il y a quand même une culture, il y avait des observatoires régionaux d'énergie au début des années 80 dans certaines régions. Bon, pour construire une politique publique, on a des données, on a quelque chose. L'adaptation, la seule culture qu'on a, ça va être la culture des politiques de gestion du risque. Et c'est souvent là-dessus, d'ailleurs, que ça va se greffer. On a la question d'adaptation aggravante, c'est-à-dire, bon, bah, on a un problème, on y répond, et puis on s'enfonce un peu plus. Il y a une question donc de perspective politique, mais aussi de perspective psychologique. Parler d'adaptation à ses citoyens, c'est pas souvent leur parler d'un avenir radieux, tandis que leur parler de croissance verte, de défis environnementaux. On a réussi à positiver, je ne sais pas avec quel résultat, l'enjeu écologique. Enfin, l'enjeu de l'atténuation, on n'a pas pour l'instant réussi à présenter l'adaptation de façon positive, ce qui pourrait être tout à fait le cas si on la réintègre dans des interrogations plus larges sur les avenirs et les dynamiques des territoires. Donc un portage exclusivement technique, ça c'est ce qu'on voit quand même très très souvent, et je reviens d'une première série d'entretiens en Bourgogne où on a des relais politiques qui sont extrêmement faibles, et quand il y en a, ils sont en sous-main, c'est-à-dire qu'ils font outiller cette question parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait développer des recherches là-dessus, mais par contre ils ne vont pas en parler à leurs concitoyens parce que c'est pour l'instant quelque chose qui n'a... Il n'y a pas de gain associé. Donc voilà où on en est. Est-ce que c'est le début d'une lente acculturation aux questions d'adaptation ? Il y a bien évidemment la question des responsabilités de chacun, des compétences. Donc voilà, je finis. Moi, il y a une question qui m'intéresse particulièrement, c'est comment les territoires intègrent leur reste du monde, comment ils s'organisent entre eux, donc ça c'est l'interterritorialité, et aussi... comment l'extérieur vient peser sur eux. C'est-à-dire, est-ce qu'actuellement, on peut penser qu'il y a une ville qui s'engage dans une stratégie de facteur 4, qui prenne réellement une trajectoire de transition énergétique dans notre contexte politico-administratif actuel? A priori, c'est pas possible, parce qu'il y a tout un tas de questions de prix de l'énergie, de structuration de la politique, des infrastructures, des équipements, qui fait qu'une collectivité seule, par rapport aux compétences qu'elle a, pourra très difficilement s'engager si le reste ne suit pas. Donc l'extérieur a un poids aussi sur les dynamiques locales, qui n'est pas, à mon avis, à négliger. Et puis la concordance entre les espaces de révélation des problèmes climatiques et les espaces du risque, de gestion du risque, de périmètre de gestion du risque, et les espaces des institutions, donc un PNR, un conseil régional, ce n'est pas forcément là que va se révéler matériellement la variation climatique. Donc, par exemple, ça pourrait être sur un massif forestier, sur un littoral, donc pas forcément des milieux fragiles qui ne vont pas forcément avoir une traduction institutionnelle. Donc voilà, actuellement on assiste à un double mouvement, on a une standardisation et une généralisation des politiques climat, avec un volet adaptation qui devient obligatoire, donc c'est les schémas régionaux climat, air, énergie, mais on ne sait pas du tout ce qui va être donné dessus, donc ça c'est par le haut, et par le bas on a des territoires qui explorent et remplissent cette notion d'adaptation de façon très diversifiée. Donc, est-ce que les chemins, quelle généralisation, quel essaimage, est-ce que les chemins de la sobriété croiseront-ils ceux de la résilience? Alors, c'est des mots très à la mode, mais c'est pour dire que on peut avoir des trajectoires de facteur 4 qui ne seront pas des trajectoires qui auront intégré les enjeux liés aux variations climatiques. Et c'est pas du tout dit mécaniquement que ces trajectoires se superposent. Donc, elles doivent être, à mon avis, pensées ensemble. Et qu'elles doivent être pensées pour qu'elles convergent. Si on reste dans des politiques climatiques qui sont conçues comme un facteur d'amélioration de la compétitivité de chaque territoire, on aura plutôt une aggravation des inégalités et donc pas une réduction des déséquilibres.